Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans Hacker News Daily sur Brie Radio. Je suis Claire Martin.
Et je suis Nicolas Moreau. Au programme, une grosse actualité pour les yeux et pour les machines. La nouvelle version du modèle phare d'OpenAI, présentée comme la meilleure en vision jamais publiée, avec un prix qui chute de moitié sur OpenRouter.
Côté coulisses, Amazon qui numérise discrètement des quantités massives de livres rares, un incident majeur sur GitHub, et aussi des détails d'Epazon sur la GPT, je m'égare. On parlera aussi de DuckDB et de la prochaine version de son évolution.
Un épisode bien rempli. Restez avec nous.
D'après TechCrunch, qui cite 404 médias, Amazon achèterait de grandes quantités de livres rares, leur couperait le dos et les numériserait pour entraîner ses modèles d'intelligence artificielle. 404 médias assurent avoir placé un dispositif de suivi dans un livre rare qui se serait retrouvé dans un entrepôt Amazon de Las Vegas, le site VGT3, repéré par le symbole d'un dinosaure tenant un livre. Interrogé, Amazon a déclaré à 404 médias qu'il achète des livres par des canaux commerciaux pour améliorer les produits et services utilisés par les clients. L'article d'Amanda Silberling, daté du 17 août 2026, explique pourquoi ces livres rares, épuisés ou introuvables en ligne, comptent en temps, les grands modèles de langage ont déjà absorbé l'essentiel du web et aucun texte publié avant 2022 n'a pu être écrit par une IA, alors que s'entraîner sur du texte généré par IA risque un effondrement du modèle, dégradant la qualité des sorties. TechCrunch évoque aussi le cas d'Anthropic, accusé d'avoir piraté des livres. Dans la discussion, plusieurs commentateurs contestent le titre. L'un juge que le mot « rare » sert à générer des clics. Un autre affirme que TechCrunch produit désormais du sloop IA avec un agenda biaisé. Un autre estime que l'article n'étaye pas la destruction de livres rares et ne fait que renvoyer à l'article payant de 404 médias. Un autre répond qu'il doute qu'Amazon écarte soigneusement les livres rares de ses listes et cite une librairie de Charing Cross Road vendant des pages découpées dans des ouvrages. Sur le droit d'auteur, un commentateur demande si c'est ce que dictent les lois. Un autre répond qu'une copie reste une copie, même si l'original est détruit.
C'est dingue, et Amazon a réagi ?
Oui, Amazon a dit qu'il achète des livres par des canaux commerciaux pour améliorer les produits et services utilisés par les clients. Ce qui explique l'intérêt pour ces ouvrages, les livres rares, épuisés ou introuvables en ligne sont très précieux pour entraîner les modèles. Parce que les LLM ont déjà absorbé l'essentiel du web et qu'aucun texte publié avant 2022 n'a pu être écrit par une IA. S'entraîner sur du texte généré par IA, ça risque la fameuse dégradation des sorties. Le modèle finit par tourner en rond.
Et dans les commentaires, je crois que la discussion s'est très vite enflammée, non ? On conteste le titre, on se demande si « rare » n'est pas un mot à clic.
Exactement. Certains commentateurs trouvent que l'article n'étaye pas la destruction de livres rares et ne fait que renvoyer à l'article payant de 404 médias. Un autre doutait qu'Amazon écarte soigneusement les livres rares de ses listes et cite une librairie de Charing Cross Road qui vend des pages découpées dans des ouvrages.
Et côté droit d'auteur, la question est posée aussi.
Oui, un commentateur demandait si c'est ce que dictent les lois et quelqu'un a répondu qu'une copie reste une copie, même si l'original est détruit. C'est aussi le point soulevé avec Anthropic, accusé d'avoir piraté des livres. Bref, l'idée que des ouvrages rares finissent découpés pour nourrir des modèles. Ça interroge autant sur la méthode que sur le droit.
Un guide pratique publié sur librarian.net intitulé « How to disable or avoid intrusive AI » détaille comment désactiver ou éviter l'IA intrusive. Son autrice, bibliothécaire, écrit que la question la plus posée à ses permanences, drop in time, avec « qu'est-ce qui occupe tout mon espace de stockage cloud ?» est justement « comment éviter l'IA qui s'impose là où on n'en veut pas ?» Le guide détaille les réglages pour Adobe Acrobat et Reader, Android et Gemini, y compris le bouton d'alimentation, Apple Intelligence et Siri, qui n'existent que sur l'iPhone 16 et les Mac et iPad plus récents, avec une fonctionnalité « Learn from this application », pouvant rester active même quand Apple Intelligence est désactivée, ainsi que l'IA embarquée dans Chrome, Edge et Firefox, DuckDuckGo et Google Workspace. Il signale notamment que Firefox 148 et version ultérieure permet de bloquer toutes les améliorations IA et que DuckDuckGo propose une version sans IA. Dans la discussion Hacker News, Radbe salue un guide utile pour un problème bizarre. Des entreprises imposent des fonctions que personne ne veut, coûteuses à faire tourner, et le marché peut rester irrationnel longtemps. Blue Fire Brand se demande si le marché est vraiment irrationnel ou si l'on ne voit pas ce que font ces entreprises. Il soupçonne que beaucoup de gens n'aiment pas l'IA mais l'utilisent à contre-cœur, et que la stratégie serait de la rendre si envahissante et si coûteuse à annuler que les entreprises en profitent.
Et le guide est assez complet, si je me souviens bien, il couvre beaucoup de services.
Oui, il passe en revue les réglages pour Adobe Acrobat et Reader, Android et Gemini, notamment le bouton d'alimentation, Apple Intelligence et Siri, avec un détail intéressant, cette IA n'existe que sur les iPhones récents et les Mac et iPad plus récents. Et il y a une fonctionnalité Learn from this application, qui peut rester active même quand Apple Intelligence est désactivé. Il couvre aussi l'IA embarquée dans Chrome, Edge et Firefox, ainsi que DuckDuckGo et Google Workspace.
Il y a quand même des bouées de sauvetage alors ?
Oui, par exemple, il signale que Firefox, dans ses versions récentes, permet de bloquer toutes les améliorations IA et que DuckDuckGo propose une version sans IA. L'article s'ouvre d'ailleurs sur l'image d'un masque à oxygène avec la légende « Mettez d'abord votre propre masque à oxygène ».
Et côté discussion, ça a suscité des réactions.
Oui, un commentateur salue un guide utile pour un problème bizarre. Des entreprises imposent des fonctions que personne ne veut, coûteuses à faire tourner, et il rappelle que le marché peut rester irrationnel longtemps. Un autre répond en se demandant si le marché est vraiment irrationnel ou si on ne voit tout simplement pas ce que font ces entreprises. Il soupçonne que beaucoup de gens n'aiment pas l'IA mais l'utilisent à contre-cœur, et que la stratégie serait de la rendre si envahissante et si coûteuse à annuler que les entreprises en profitent. Tout un débat, en somme, entre la résistance individuelle et la mécanique du marché.
Dans un article de sa newsletter daté du 17 août 2026, Rick Manelius, qui se présente comme aussi pro-AI que possible, explique que l'écriture générée par intelligence artificielle est en train de devenir l'une de ses grandes bêtes noires, et il adopte l'acronyme AIDR, Didn't Read, soit IA pas lu, comme solution pour ignorer les murs de slope, une expression qu'il attribue à un tweet de ce clic daté du 15 août 2026. Il décrit sa réaction physique, épaules qui tombent, dos voûté, léger tic à l'œil, quand une personne qu'il respecte lui envoie une sortie d'IA non filtrée et non éditée. Il annonce une nouvelle politique. Si l'auteur ne prend pas la peine de relire et d'éditer le texte, lui ne prendra pas la peine de le lire. Il reconnaît des exceptions, comme le support client où un contenu 100% généré par IA est attendu. Mais pour un collègue qui publie un mur de sortie Claude dans une discussion Slack et pour les newsletters et contenus sociaux, il estime que l'auteur doit assumer la prose et ses AIismes bizarres. Je peux demander à Claude directement si je veux. Selon lui, TLDR était la solution pour les réseaux sociaux, AIDR est la solution pour le slope d'IA. Dans la discussion, les commentaires jouent surtout avec l'acronyme. Derm32 propose HAWDR, Human Written, Did Read. Ambi suggère HAWWR, Human Written, Worth Reading. Serma répond TA. Du, Too Ambiguous, Didn't Understand. DR qui fait réagir Inkley et d'autres.
Pourquoi une telle réaction chez quelqu'un d'aussi pro-AI ?
Il décrit une vraie réaction physique. Épaules qui tombent, dos voûté, léger tic à l'œil. Quand une personne qui respecte lui envoie une sortie d'IA non filtrée et non éditée. Sa politique est donc simple. Si l'auteur ne prend pas la peine de relire et d'éditer le texte, lui ne prendra pas la peine de le lire. Il reconnaît des exceptions, comme le support client, où un contenu 100% généré par IA est attendu. Mais pour un collègue qui publie un mur de sortie Claude dans une discussion Slack, ou pour les newsletters et contenus sociaux, il estime que l'auteur doit assumer la prose et ses drôles d'AIismes.
Et l'acronyme, dans les commentaires, on a joué avec, j'imagine.
Ça tourne de façon très ludique. Quelqu'un propose HWDR, écrit par un humain, lu. Un autre suggère HWWR, écrit par un humain, qui vaut la lecture. Et puis ça dérive encore, avec un TA, DER, trop ambigu pour être compris. Ce qui a fait réagir quelqu'un qui n'a pas compris l'acronyme lui-même. Bref, le débat derrière reste sérieux. À force de lire du texte généré et non relu, on se demande où s'arrête l'usage légitime de l'IA dans l'écriture. Manelius résume bien. TLDR était la solution pour les réseaux sociaux. AIADR est la solution pour le slope d'IA.
Le prix de GPT-5.6 Sol, le modèle phare de la série GPT-5.6 d'OpenAI, a baissé de 50% sur OpenRouter. Conçu pour le raisonnement complexe, le codage et les workflows agentiques, particulièrement fort en codage en ligne de commande, en tâches de codage multi-étapes et en résolution de problèmes à long horizon, ce modèle publié le 9 juillet 2026, avec une coupure de connaissances en février 2026, passe ainsi de 5 à 2,50 dollars par million de jetons en entrée et de 30 à 15 dollars par million en sortie. La fenêtre de contexte annoncée est de 1 050 000 jetons, avec une sortie maximale de 128 000 jetons. Plusieurs fournisseurs l'hébergent, dont OpenAI, Azure, Azure EU et Amazon Bedrock, et les benchmarks indépendants d'Artificial Analysis vont de 90,6% à 92,3% sur GPQA Diamond et de 70,4% à 80% sur Tobench. Dans les commentaires, Ferguson Bay rappelle que Luna a fortement progressé après sa propre baisse de prix et qu'il est désormais l'un des modèles les plus compétitifs aux nouveaux tarifs. Il se demande si OpenAI veut évaluer la part de marché que Sol peut conquérir. Mais des modèles moins chers offrent à peu près la même intelligence, notamment Grok 4 juin à 6$ par mois, ce qui rend l'offre plus difficile à vendre. Out of Here récuse cette comparaison, estimant que Grok 4 juin n'a pas l'intelligence de Sol 5 juin. Mohamed Kouba se demande si XAI ne teste pas en AB le routage de requêtes Grok 4 juin difficile vers Sol pour créer des convertis. Gilles Laforest, lui, refuse de financer une entreprise qu'il décrit comme détenue par un suprémaciste blanc.
Une belle baisse, mais est-ce que ça suffit à le rendre compétitif ?
Dans les commentaires, Ferguson rappelle un précédent intéressant. Luna, un autre modèle, a fortement progressé après sa propre baisse de prix et il est désormais l'un des modèles les plus compétitifs aux nouveaux tarifs. Il se demande donc si OpenAI veut évaluer la part de marché que Sol peut conquérir. Mais le bémol, c'est que des modèles moins chers offrent à peu près la même intelligence, avec à la clé Grok 4 juin à 6$ par mois, ce qui rend l'offre plus difficile à vendre.
Mais justement, là, la discussion s'anime.
Oui, un commentateur récuse cette comparaison en affirmant que Grok 4 juin n'a pas l'intelligence de Sol 5 juin. Un autre s'interroge même. Est-ce que XAI ne teste pas en AB le routage des requêtes difficiles de Grok 4 juin vers Sol pour créer des convertis ? Et il y a aussi une réaction très personnelle. Gilles Laforest, lui, refuse de financer une entreprise qu'il décrit comme détenue par un suprémaciste blanc. Donc au-delà du prix, il y a aussi un enjeu de préférence et de valeur qui pèse dans le choix de ces outils. La baisse de Sol, en tout cas, relance clairement la bataille de l'accessibilité sur le marché des modèles de raisonnement.
Sur Hacker News, le débat du jour tourne autour de l'annonce d'OpenAI concernant son modèle GPT 5 juin, surnommé Sol. Selon un commentaire très suivi, ce serait le meilleur modèle dit « vision » qu'OpenAI ait jamais publié. Ce point de vue, présenté comme anecdotique, s'appuie sur l'expérience du commentateur qui décrit les modèles d'OpenAI comme très solides en matière de vision, notamment grâce à une architecture MeoE qu'il juge cohérente. Il oppose cette performance à celle de Claude, qui excelle selon lui en langage mais dont la qualité se dégrade nettement dès qu'il faut examiner une image, comprendre pourquoi un design n'est pas bon ou identifier ce qui doit être amélioré. Son test le plus simple consiste d'ailleurs à soumettre des analyses d'images. Au-delà de cet avis, le fil commente l'arrivée de ce modèle, le plaçant au centre des discussions de la journée sur la communauté entre curiosité technique et comparaison entre laboratoires. La discussion illustre une fois de plus les attentes fortes qui entourent chaque sortie d'OpenAI, notamment sur les capacités multimodales, et invite les auditeurs à se demander si cette réputation tiendra face à une utilisation concrète sur des tâches de vision complexes.
C'est intéressant parce que la discussion nuance assez fortement ce genre de promesse. Le même commentateur admet d'emblée que c'est une impression personnelle, un retour d'expérience, mais son argument mérite qu'on s'y arrête.
Oui, il explique que GPT est vraiment très bon en vision et que son architecture, par mélange d'experts, lui semble particulièrement cohérente, justement pour ce type de tâche. Son point de comparaison, c'est Claude. Selon lui, les modèles d'Anthropic sont excellents en langage pur, mais dès qu'il faut regarder une image et comprendre pourquoi un design ne fonctionne pas, ou quels éléments devraient être améliorés, la qualité chute nettement.
Et c'est là qu'il situe son test le plus simple. Il donne visiblement aux modèles une même image de design et leur demande de repérer les défauts et de proposer des corrections. Résultat, GPT 5 juin seul tiendrait nettement mieux la comparaison là-dessus que les modèles concurrents.
Ce qui rend ce retour crédible, c'est qu'il est très précis sur ce que le modèle doit faire. Voir l'image, juger pourquoi le design n'est pas bon et identifier les zones concrètes à améliorer. Ce n'est pas une démo marketing. C'est un benchmark personnel qui met en évidence une vraie différence de spécialisation entre les familles de modèles.
Donc, si on retient quelque chose, c'est que ce nouveau modèle d'OpenAI creuserait l'écart sur la vision lors d'un usage réel, là où ses concurrents restent brillants en texte. Mais on reste sur un avis d'expert rapporté, pas sur un classement officiel.
Le fil de Hacker News du jour s'appuie sur une analyse remarquée d'Artificial Analysis consacrée au Qwen 3.8.27b d'Alibaba, un modèle Open Weights, sorti en août 2026 sous licence Apache 2.0, avec des poids disponibles sur Hugging Face. Il accepte texte et image en entrée, produit du texte, dispose d'une fenêtre de contexte de 256 000 tokens et compte 27 milliards de paramètres. L'analyse porte sur la version raisonnement du modèle. Selon elle, il obtient 52 sur l'Artificial Analysis Intelligence Index, ce qui le place largement au-dessus de la médiane de 9 pour les modèles comparables, avec 4 unités sur 4 en intelligence. En revanche, sa vitesse n'est pas évaluée et le prix affiché est de 0$ par million de tokens contre des médianes de 0,04 et 0,15$. Le modèle se révèle aussi très verbeux avec 160 millions de tokens générés lors de l'indice contre une médiane de 43 millions. Dans la discussion, plusieurs commentateurs mettent ce score en perspective. Certains notent qu'il le place au niveau de modèles bien plus grands, tandis qu'un autre ajoute qu'il égale le score du dernier DeepSeek Flash 0Zeptis 131, qui compte 284 milliards de paramètres, et qu'il s'agit du deuxième meilleur modèle Qwen. Bien meilleur que Qwen 3 juillet max, mais nettement en dessous de Qwen 3 août max.
Mais ce qui étonne vraiment les commentateurs, c'est le rapport entre cette performance et sa taille. Un commentateur souligne qu'il se classe au niveau de modèles beaucoup plus gros, comme GLM 5 février ou GPT 5 juin Luna. Un autre précise qu'il obtient exactement le même score que le dernier DeepSeek Flash 0Sept 131, qui affiche pourtant 284 milliards de paramètres actifs. Là, on parle d'un 27 milliards.
Et dans la hiérarchie interne, il se place en deuxième position chez Qwen, nettement au-dessus de Qwen 3 juillet max, mais toujours loin derrière le très gros Qwen 3 août max. C'est le rappel que la course à la taille n'est pas la seule variable.
S'il y a un point à retenir de cette discussion, c'est le coût. Le tarif affiché est de 0$ par million de tokens, en entrée comme en sortie, là où la médiane de sa catégorie se situe à 4 centièmes de dollars. Un modèle quasi gratuit, très fort en raisonnement, mais aussi particulièrement bavard. Il a généré 160 millions de tokens lors de l'indice, contre 43 millions pour un modèle standard. On a donc un raisonnement sérieux, à coût quasi nul, dans un format ouvert.
Autre temps fort du fil, la recherche en sécurité. Wiz Research raconte comment son outil autonome, baptisé Red Agent, a découvert puis réellement exploité une faille dans un workflow GitHub Actions du dépôt ouvert de Snowflake, Snowflake DB / Snowflake Connector Net, via le programme de Bug Bounty HackerOne. Le point de départ est une vulnérabilité d'injection de script. Un utilisateur non authentifié pouvait exécuter des commandes arbitraires dans un runner GitHub Actions en ouvrant un ticket dont le titre était spécialement conçu. La faille a été introduite le 18 juin 2026 par un commit coécrit par Lassine Copilot Autofix qui a remplacé le motif surexistant par une interpolation directe dans un script shell. Un guillemet simple dans le titre suffisait ensuite à briser la commande et à permettre l'exécution. La condition de contrôle semblait protectrice, mais sur les événements de type issue, elle laissait passer tout utilisateur GitHub. Lors de l'exploitation, après une première erreur bash, l'agent a analysé l'erreur puis modifié sa charge utile pour recevoir un callback d'un runner Azure contenant des identifiants encodés en base 64, liés à Snowflake et donnant accès en lecture à ses projets d'ingénierie, de conformité sécurité et de bug bounty. Après divulgation responsable le 23 juin, Snowflake a corrigé le jour même.
Et le scénario est assez vertigineux. Un utilisateur non authentifié pouvait exécuter des commandes arbitraires sur les serveurs de compilation GitHub rien qu'en ouvrant un ticket dont le titre était malveillant. La faille avait été introduite 5 jours avant sa découverte par un correctif coécrit par Listin Copilot Autofix.
C'est là que c'est le plus frappant. Ce sont les outils de Last IA qui ont remplacé le code sûr par une interpolation directe du titre du ticket dans un script shell. Un simple guillemet suffisait à casser la commande et à exécuter son propre code. Et la condition de sécurité apparente ne protégeait rien, puisque sur les événements de ticket, le champ de pull request est toujours vide. N'importe quel compte GitHub pouvait donc passer le filtre.
Et l'agent ne s'est pas arrêté là. Après une première erreur, il a analysé le message et modifié sa charge utile pour recevoir un appel depuis un serveur cloud contenant des identifiants encodés liés à un compte de messagerie de Snowflake. Ces identifiants donnaient accès en lecture aux projets d'ingénierie, de conformité sécurité et de bug bounty de l'entreprise.
Ce qu'on retient de ce récit, c'est que le correctif a été livré dès le lendemain de la divulgation responsable. Mais ça montre toute la chaîne. Une IA génère une régression de sécurité, puis une autre IA la découvre, l'exploite et s'en sert pour remonter jusqu'au projet interne. C'est un exemple saisissant de la boucle que la sécurité moderne devra apprivoiser. Le fil revient enfin sur l'incident qui a secoué GitHub, touchant les webhooks, l'API, les issues et les actions. Le rapport d'incident officiel indique qu'une enquête a été ouverte pour des rapports de performance impactés sur certains services GitHub, puis qu'un taux d'erreur d'environ 20% a été constaté sur de nombreuses fonctionnalités, notamment les pull requests et les issues, les composants étant marqués en performance dégradée. Un commentateur a cité cette mise à jour sur Hacker News pour signaler que la page de statut avait fini par être actualisée. Dans le fil, plusieurs utilisateurs décrivent des symptômes concrets, le message disant qu'aucun serveur n'est disponible, des erreurs pink unicorn sur les pages, des changements de pull request invisibles, puis des dépôts entiers impossibles à charger, ou encore des messages d'échec lors de tentatives de fusion et des issues complètement cassées. Un commentateur précise que l'API permettait toujours de créer une issue, mais que les webhooks n'étaient pas déclenchés. Des signalements proviennent de Bulgarie, du Brésil et d'Inde. Et à la question de savoir quel modèle d'IA était en cause, un commentateur a répondu, avec humour, que le coupable était en fait des Indiens.
Et c'est justement la note d'humour de cette discussion. Au départ, la page d'État affichait tout en vert pendant que la plateforme s'effondrait. Plusieurs utilisateurs décrivent des symptômes très concrets, comme le message disant qu'aucun serveur n'est disponible pour traiter la requête, ou une licorne rose à la place des pages. D'autres parlent de changements de pull request invisibles, de dépôts entiers impossibles à charger, ou d'une fusion bloquée au motif que le statut de fusion ne pouvait pas être chargé.
Un utilisateur précise que l'API permettait quand même de créer une issue, mais que les webhooks associés n'étaient pas déclenchés. Une demi-fonctionnalité donc. Et les signalements arrivent de Bulgarie, du Brésil et d'Inde.
Et comme souvent sur ce genre de panne, les internautes ont essayé d'y voir la main d'une IA. À la question sur quel modèle d'IA serait responsable cette fois, un commentateur a répondu avec humour que ce serait plutôt l'Inde, en précisant que l'IA, en fait, désigne des Indiens. Un autre souligne que l'incident n'a été officiellement ouvert qu'après 5 à 10 minutes, l'API étant alors marquée, visiblement à la main, comme ayant des performances dégradées.
Ce qu'on retient, malgré la légèreté des commentaires, c'est que cette panne a rappelé à quel point des fonctions comme les webhooks et les issues sont devenues centrales pour ceux qui vivent de GitHub et que l'information d'État a pris du retard sur la réalité. Une nouvelle preuve, s'il en fallait, que la transparence en temps réel reste un chantier permanent pour les grandes plateformes. Vu les pannes régulières que GitHub accumule depuis plusieurs mois, est-ce vraiment le moment de changer? C'est la question que pose l'utilisateur DHRuv3006 dans le fil Hacker News Ask HN Alternative to GitHub, et les réponses dessinent un paysage assez contrasté. GitLab est présenté par Mario César comme l'alternative la plus proche en termes de fonctionnalité pour une organisation GitHub de grande taille, avec l'avantage d'une édition communautaire open source auto-hébergeable. KTM5G indique que son organisation auto-héberge la version communautaire de GitLab et s'en dit parfaitement satisfaite. Selon lui, gérer sa propre infrastructure et y mettre le travail de maintenance réduit nettement les maux de tête. Le fil clarifie aussi la relation entre Gita et Forgejo. Tickert évoque Forgejo comme un fork communautaire de Gita en mentionnant un drame qu'il dit ne pas vraiment comprendre. Et Avoc précise que Forgejo est un fork de Gita, ce que Tickert reconnaît avoir voulu dire. Technologique, qui se présente comme l'un des responsables du projet Gita, affirme que Gita reste communautaire comme avant, avec des élections annuelles des mainteneurs pour la direction du Tafok. Aston 3.14 juge Forgejo splendide, léger à auto-héberger, très rapide et facile à naviguer. Yuxoto héberge une instance Forgejo sur un VPS privé, avec presque aucune maintenance, si ce n'est la protection contre les robots d'IA. Il configure ses dépôts locaux pour pousser à la fois sur GitHub et sur son instance Forgejo. Andrew Kemendo dit être satisfait de son propre hébergement, et le débat montre que la réponse dépend surtout de la taille de l'organisation et du niveau de maintenance acceptable.
Contrasté, oui, et il y a d'abord le grand frère attendu. Un commentateur présente GitLab comme l'alternative la plus proche en termes de fonctionnalité si on tourne autour d'une grosse organisation GitHub. L'avantage, c'est son édition communautaire open source qu'on peut héberger soi-même.
Et il y a des retours d'expérience concrets là-dessus. Un commentateur raconte que son organisation auto-héberge justement cette version communautaire de GitLab et qu'il en est parfaitement satisfait. Selon lui, mettre soi-même le travail de maintenance dans sa propre infrastructure réduit nettement les maux de tête par rapport à subir les pannes de quelqu'un d'autre.
Mais le fil se focalise aussi beaucoup sur le duo GTA et Forgejo. Et là, les commentateurs tiennent à clarifier une confusion courante. Forgejo est bien un fork communautaire de GTA. Un des responsables du projet GTA intervient d'ailleurs pour rassurer, confirmant que le projet reste communautaire comme avant, avec des élections annuelles des mainteneurs.
Côté pratique, Forgejo a de vrais fans. Un commentateur le trouve splendide, léger à auto-héberger, très rapide et facile à naviguer. Un autre héberge son instance sur un petit serveur privé avec presque aucune maintenance, si ce n'est la protection contre les robots d'IA. Et il a configuré ses dépôts locaux pour pousser à la fois sur GitHub et sur sa propre instance Forgejo.
Voilà qui résume bien l'état des lieux. Si on veut un clone fonctionnel de GitHub, GitLab joue cette carte-là, tandis que Forgejo et Gita séduisent par leur légèreté et leur autonomie. La fenêtre ouverte par les pannes de GitHub pousse visiblement beaucoup de monde à tester la bascule.
Le 17 août 2026, l'équipe DuckDB, menée par Mark Rasvelt et Hannes Mulaisen, a publié un aperçu de DuckDB V2.0, attendu cet automne et baptisé Cyanoptera, d'après la sarcelle cannelle. Plus qu'un simple changement de numéro, la version apporte un nouveau parseur SQL, un nouveau format de stockage par défaut, une API C retravaillée, un petit nombre de changements cassants, des triggers before-after avec granularité for each row et for each statement, ainsi que plus de 10 000 commits depuis la V1.5 de mars. Les auteurs en font l'année de DuckDB en tant que serveur. L'extension Quack, passée stable en V2.0, permet à toute instance DuckDB de servir ses bases en réseau. Et la nouvelle instruction Connect rattache un client à une base distante, avec un optimiseur de page down qui envoie le SQL directement vers PostgreSQL et MySQL. L'article vante un moteur transactionnel MVCC multi-connexion, de meilleures métriques et une observabilité renforcée, ainsi que des clients tiers construits pour Quack en quelques semaines. Le type Varenant, présenté comme du JSON en accéléré, devient un citoyen de première classe, avec lecture et écriture parquet et page down d'extraction. Les auteurs prévoient, sans s'engager, d'adosser le type JSON régulier sur Varenant peu après V2.0. Plusieurs nouveautés avaient déjà été dévoilées lors de l'exposé State of the Duck à DuckCon 7. Dans la discussion Hacker News, un commentateur y voit le passage d'un moteur d'exécution in-process à une fondation de Data Warehouse Cloud, en préparation selon lui malgré la réticence historique des fondateurs.
Ce n'est pas juste un changement de numéro, loin de là. Cette version introduit un nouveau parseur SQL, un nouveau format de stockage par défaut, une API-C retravaillée et plus de 10 000 commits par rapport à la version 1.5 de mars. Les auteurs présentent même 2026 comme l'année de DuckDB en tant que serveur.
Et cette idée de serveur est le vrai cœur du changement. L'extension Quack, passée stable dans la 2.0, permet à n'importe quelle instance DuckDB de servir ses bases en réseau. Une nouvelle instruction connecte un client à une base distante, avec un optimiseur qui envoie le SQL directement à PostgreSQL et MySQL. Tout ça s'appuie sur un moteur transactionnel multi-connexion et une observabilité renforcée.
Il y a aussi une nouveauté pour ceux qui travaillent avec du JSON. DuckDB introduit un type Variant, présenté comme du JSON en accéléré, qui devient un citoyen de première classe avec lecture-écriture parquet. Les auteurs prévoient, sans s'engager fermement, d'adosser le type JSON ordinaire sur Variant peu après la sortie de la 2.0.
Dans la discussion Hacker News, on perçoit bien le basculement stratégique. Un commentateur y voit le passage d'un moteur d'exécution in-process à une vraie fondation de Data Warehouse Cloud, préparée selon lui malgré la réticence historique des fondateurs. C'est donc bien plus qu'une simple mise à jour. Bonne nouvelle, sur le front du Linux mobile, l'appareil photo principal du Fairphone 6 fonctionne désormais sous Postmarket OS. Un article du blog CatCraft détaille le travail de l'auteur, qui a écrit le pilote en s'appuyant sur le travail de Nondescript Pointer sur l'objectif grand angle. L'autofocus et la correction des couleurs fonctionnent, la correction des couleurs restant un travail en cours, l'image étant encore granuleuse, le stockage en JPG de plasma caméra n'aidant pas. Et la comparaison avec un Galaxy A16 sous Android montrant le chemin restant. Pour l'upstreaming, Nondescript Pointer enverra le code et l'auteur relira et assistera. L'auteur a par ailleurs obtenu l'autorisation de tester les appels d'urgence. Les tests ont été approuvés pour le mardi 18 août entre 13h30 et 14h15 par le service néerlandais 1 janvier-2. Le Fairphone 6 Plus est officiellement annoncé et l'auteur prévoit d'en acheter un dès que possible, financé par les dons d'environ 650 euros. Et contacte un notaire pour créer CatCraft comme fondation à but non lucratif, avec un salaire public plafonné par le droit néerlandais, tout en restant méfiant envers Fairphone, entreprise à but lucratif qui poste encore sur X. Dans les commentaires, Nekuzar compare le projet au PinePhone Pro, incapable selon lui de faire la partie téléphone, et juge les projets de téléphone Linux, 15 ans en arrière, avec des correctifs ignorés. Pimace témoigne d'un OnePlus 6 acheté 50 euros sur eBay sous Plasma Mobile, avec des correctifs NFC Yubikey pour l'application Secret, aidé par Kimi et DeepSeek, une voix que Nekuzar rejette.
L'autofocus fonctionne, et la correction des couleurs aussi, même si elle reste un travail en cours. L'image est encore granuleuse, et la comparaison directe avec un Galaxy A16 sous Android montre que le chemin restant est réel. Les deux développeurs prévoient d'envoyer le code en amont pour l'intégrer au système.
Et il y a une avancée très concrète sur la partie sécurité. L'auteur a obtenu l'autorisation de tester les appels d'urgence, avec des tests prévus un mardi après-midi en août, validés par le service néerlandais d'urgence. C'est un gros pas puisque la fonction téléphone d'urgence est généralement un point sensible de ces projets.
Le Fairphone 6 Plus vient d'être officiellement annoncé et l'auteur compte en acheter un dès que possible, financé par les dons, environ 650 euros. Il est d'ailleurs en train de créer une fondation à but non lucratif avec un salaire public plafonné par le droit néerlandais, tout en restant méfiant envers Fairphone, entreprise à but lucratif.
Dans les commentaires, les avis sont tranchés. Un commentateur compare le projet au PinePhone Pro, incapable selon lui de faire correctement la partie téléphone, et juge les projets Linux mobile 15 ans en retard. Un autre témoigne pourtant d'un OnePlus 6 acheté 50 euros d'occasion. qui tourne sous Plasma Mobile et gère même des correctifs de sécurité NFC pour son gestionnaire de mots de passe.
Entre optimisme mesuré et scepticisme assumé, le débat reste ouvert. Mais sur le fond, chaque petite bataille gagnée, comme ce pilote d'appareil photo ou ces tests d'urgence, rapproche ses téléphones d'un usage quotidien crédible.
Le développeur Fabien Sanglar met en ligne une histoire autour du CD du shareware de Quake, un CD-ROM qui s'est retrouvé un tout petit peu trop plein. Le récit touche à la préservation du jeu vidéo et à la sécurité d'une façon inattendue. Mais c'est aussi une question qui alimente la discussion Hacker News. Faut-il vraiment qualifier de tels algorithmes de « sécurité par l'obscurité » ? Comme le demande un commentateur, par cette logique, le vrai chiffrement symétrique ne serait-il pas aussi considéré comme de la sécurité par l'obscurité, puisqu'il repose toujours sur des mathématiques qui échangent des données avec d'autres octets, sur la base d'un mot de passe ou d'une clé justement obscure ?
Et c'est là que la discussion Hacker News prend un tour intéressant. Quelqu'un interroge la manière dont on qualifie la protection de ce genre de disque. Est-il vraiment juste de parler de sécurité par l'obscurité ? Par cette logique, demande-t-il, une vraie cryptographie symétrique ne serait-elle pas aussi de la sécurité par l'obscurité, puisque c'est toujours des maths qui remanient des octets à partir d'une clé cachée ?
Belle question rhétorique, et elle touche précisément au cœur du débat, la frontière entre le secret des clés légitimes et le simple fait de cacher son fonctionnement. Ce sont deux approches qui ne méritent pas vraiment le même jugement, et c'est la nuance que la discussion s'efforce de poser.
Le récit de Sanglar reste un beau morceau d'histoire du logiciel, avec ce moment précaire où l'on se demande comment tout a pu tenir sur ce disque. Et en creux, il montre une époque où la débrouille et l'obscurité technique faisaient office de sûreté, faute de mieux.
L'état d'acide, connu sous le nom commercial Cialis, est de plus en plus présenté dans certains cercles de biohacking et de bien-être comme un médicament de longévité, rapportait NPR en août. Les études disponibles sur cette molécule sont observationnelles et rétrospectives. Elles montrent que les hommes qui en prennent présentent des taux plus faibles de maladies cardiovasculaires, de décès et de démence. Mais elles ne peuvent établir qu'une association, et aucun essai contrôlé bien mené chez l'humain n'existe. Ces médicaments ne sont pas approuvés pour prévenir les crises cardiaques ou les AVC, ni pour prolonger la vie. Le docteur Robert Kloner, directeur de la recherche cardiovasculaire au Huntington Medical Research Institute et professeur à l'Université de Californie du Sud, parle d'un signal très intéressant cohérent dans la littérature, tout en insistant sur la nécessité d'en apprendre davantage. Des personnalités comme le neuroscientifique Andrew Huberman et le promoteur de longévité Brian Johnson ont évoqué l'usage de la tadacible au-delà du sexe. Christy Sawicki, docteur en oncologie moléculaire, a commencé à en prendre il y a environ un an, y voyant un fruit à portée de main pour la santé cardiovasculaire et un bénéfice pour le flux sanguin vers le cerveau et le cœur. Dans la discussion Hacker News, un commentateur rappelle au passage que le sildenafil a d'abord été synthétisé pour traiter l'hypertension artérielle, la dysfonction érectile n'étant qu'un effet secondaire, et que la tadacible a suivi la même voie d'inhibiteur.
Et c'est important de rappeler que ce médicament n'est approuvé ni pour prévenir les crises cardiaques ou les AVC, ni pour prolonger la vie. Le docteur Robert Kloner, qui dirige la recherche cardiovasculaire au Huntington Medical Research Institute, parle quand même d'un signal très intéressant, cohérent dans la littérature. Il ajoute simplement qu'il faut en apprendre davantage avant de conclure quoi que ce soit.
En attendant, des figures connues du grand public, comme le neuroscientifique Andrew Huberman ou le promoteur de longévité Brian Johnson, ont évoqué un usage de la tadacible au-delà du cadre sexuel. Christy Sawicki, qui a un doctorat en oncologie moléculaire, en prend depuis environ un an. Elle voit dans ce médicament un fruit à portée de main pour la santé cardiovasculaire et un bénéfice pour le flux sanguin vers le cerveau et le cœur.
Parmi les commentaires sur Hacker News, un internaute rappelle d'ailleurs une chose utile pour contextualiser tout ça. Le sildenafil a d'abord été synthétisé pour traiter l'hypertension artérielle et c'est la dysfonction érectile qui s'est révélée être un effet secondaire. La tadacible a emprunté la même voie d'inhibiteur. Autrement dit, ces molécules n'ont pas été conçues à la base pour ce pourquoi on les connaît le mieux aujourd'hui. Tout ça reste donc une piste sérieuse mais non confirmée, portée par des données observationnelles et des enthousiasmes bien réels. Une jeune entreprise nommée Speco, présentée sur Hacker News par son fondateur Beck, se positionne comme le routeur pour modèles vocaux, avec pour titre de lancement Open Router for Voice AI, et elle est soutenue par Y Combinator dans la cohorte S26. Le point de départ, explique le fondateur. Un agent vocal de production typique assemble trois modèles, reconnaissance vocale, LLM et synthèse vocale, et chaque couche compte des dizaines de fournisseurs crédibles, avec de nouveaux modèles chaque mois. Presque tout le monde évalue une fois, choisit une pile et ne vérifie plus jamais, car changer de fournisseur implique une nouvelle intégration. On se retrouve donc avec les modèles de la saison précédente alors que des options meilleures et moins chères existent. Avant Speko, Beck dit avoir passé 4 ans comme cofondateur et CTO à construire des agents vocaux pour des entreprises en Asie, dans plus de 10 langues, avec un rituel de référencement par des évaluateurs natifs. Au lancement, l'utilisateur envoie une requête avec ses critères d'optimisation, précision, latence, coût ou équilibré, ainsi que la langue et la région. Le routeur filtre les modèles mesurés pour cette combinaison, les évalue, sélectionne le gagnant et renvoie une réponse avec des entêtes contenant fournisseur, nom de modèle et score. La passerelle précharge des plans de session signés pour qu'une nouvelle session contacte le fournisseur sans aller-retour de plan de contrôle pendant qu'un appelant attend et le basculement ne se produit qu'à l'établissement de la connexion.
Le point de départ, c'est un vrai problème pratique. Un agent vocal de production assemble 3 modèles. Un pour la reconnaissance vocale, un grand modèle de langage et un pour la synthèse de la parole. Et pour chaque couche, il existe des dizaines de fournisseurs crédibles, avec de nouveaux modèles qui sortent chaque mois. Sauf que le fondateur constate que presque tout le monde évalue une fois, choisit sa pile et ne vérifie plus jamais, parce que changer de fournisseur exige une nouvelle intégration complète. Résultat, on se retrouve avec les modèles de la saison précédente alors que des options meilleures et moins chères existent déjà.
Le profil de Beck prête à cette approche. Avant de lancer Speko, il a passé 4 ans comme cofondateur et directeur technique à construire des agents vocaux pour des entreprises en Asie, dans plus de 10 langues, avec un rituel de référencement par des évaluateurs natifs. Donc il connaît très concrètement le casse-tête qu'il veut résoudre.
Et comment ça marche concrètement? L'utilisateur envoie une requête avec ses critères d'optimisation, par exemple la précision, la latence, le coût, ou un équilibre entre les 3, plus la langue et la région. Le routeur filtre alors les modèles mesurés pour cette combinaison, les évalue, sélectionne le gagnant et renvoie une réponse avec des informations sur le fournisseur, les modèles choisis et les scores obtenus.
Un détail technique montre qu'il pense au confort de l'appelant. La passerelle précharge des plans de session signés, pour qu'une nouvelle session contacte directement le fournisseur sans aller-retour de plan de contrôle, pendant que la personne attend. Et le basculement vers un autre fournisseur ne se produit qu'au moment de l'établissement de la connexion. En clair, l'idée, c'est de toujours servir le meilleur modèle disponible pour chaque situation, sans que l'équipe qui construit l'agent ait à refaire l'intégration à chaque fois.
Voilà qui conclut notre épisode du jour. Merci d'avoir été au rendez-vous et d'avoir suivi ces échanges jusqu'au bout.
Nous espérons que ce tour d'horizon vous a éclairé et accompagné dans vos réflexions. Prenez soin de vous et à très bientôt pour un prochain rendez-vous.